Aujourd'hui, à la Une de la Science, Héloïse, on va parler d'une molécule anti-douleur qui, si elle tient ses promesses chez l'homme, pourrait peut-être faire baisser le nombre de prescriptions de médicaments morphiniques.
Oui Mathieu, c'est une nanomolécule, plus précisément, le détail a son importance parce que c'est justement le fait qu'il s'agisse d'une nanomolécule qui lui donne son efficacité anti-douleur. Les chercheurs, qui sont français, ont travaillé à partir de substances naturellement produites par notre corps pour atténuer la douleur. Ils publient leurs résultats dans la revue Science Advances. Patrick Couvreur, un des co-auteurs de l'étude, est avec nous cet après-midi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay, membre de l'Académie des sciences. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une alternative à la morphine? Parce que ça marche plutôt bien.
Eh bien, vous savez que la morphine est évidemment un médicament antidouleur qui est extrêmement important pour le traitement de la douleur, notamment inflammatoire, morphine ou dérivée de la morphine. Alors le problème, c'est que la morphine agit au niveau central, c'est directement au niveau de récepteurs qui sont situés au niveau du cerveau. Et le problème, c'est que cette molécule et ses dérivés vont induire des effets secondaires, dont notamment la dépression respiratoire, mais plus problématique encore, ce que l'on appelle la tolérance et l'addiction. Et ça vous explique pourquoi, quand on prend de la morphine ou ses dérivés de manière relativement chronique, eh bien on doit régulièrement augmenter les doses pour atteindre l'effet antidouleur qui est requis.
Donc sur le long terme, c'est un peu une impasse, les morphiniques.
Sur le long terme, ça peut être effectivement dans certains cas une impasse. Et vous savez qu'aux États-Unis, dans tous les cas, oui, c'est un problème majeur, puisqu'on compte à peu près 11 millions de patients qui sont addicts à la morphine et à ses dérivés, ce qui est quand même relativement important, avec plus de morts par surdosage par jour que les accidents de la route. Sur prescription médicale, dans un environnement médical.
Alors en France, on n'en est pas encore là, mais c'est un problème qui prend de l'ampleur. Donc oui, vous êtes intéressé à une autre classe de molécules antidouleurs, expliquez-nous.
Oui, parce que vous savez que naturellement, nos neurones synthétisent ce que l'on appelle des endorphines. Alors ceux qui font du sport prolongé, intensif, ressentent une certaine aisance, une meilleure résistance à la douleur, si je puis dire, après un certain temps d'effort sportif. Et en fait, ces endorphines vont faire baisser le seuil de la douleur. Et l'idée, finalement, ça a été d'utiliser ces endorphines. Alors ça, c'est pas une idée neuve, parce qu'on a essayé de traiter la douleur à l'aide d'endorphines, et notamment d'encéphaline. Malheureusement, quand vous injectez ces molécules par voie intraveineuse, eh bien, elles sont immédiatement dégradées, métabolisées en quelques minutes.
Et donc, n'ont aucun effet.
Et donc, nous avons notre propre pharmacie, finalement, dans le corps humain. Hein.
Tout à fait.
On peut les servir nous-mêmes.
Tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces molécules-là vont agir aussi sur des récepteurs aux opiacés périphériques, c'est-à-dire pas uniquement au niveau central, mais également au niveau périphérique. Et on a donc eu l'idée de protéger ces molécules pour pouvoir les administrer en faisant finalement des nanoparticules à base de squalène, en encapsulant une encéphaline qui est la leucéphaline et en démontrant donc qu'on avait une activité effectivement antidouleur extrêmement importante et prolongée.
Et donc ces nanomolécules, vous les avez injectées pour le moment chez le rat.
Oui.
Et quel effet vous avez constaté ?
Eh bien, on constate un effet qui est à peu près équivalent à celui de la morphine, mais qui est prolongé. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en utilisant des antagonistes de ces récepteurs, on a pu démontrer qu'on agissait non pas au niveau central, c'est-à-dire au niveau des récepteurs cérébraux, mais qu'on agissait au niveau des récepteurs périphériques. Et donc, automatiquement, cela supprime les effets centraux, c'est-à-dire les effets d'addiction, de tolérance, et secondairement aussi de dépression respiratoire.
Donc chez le rat, là, on n'a pas d'effet secondaire embêtant pour le moment?
Non, et on l'a démontré parce qu'en fait, on a marqué ces nanoparticules de manière fluorescente, on les a injectées, on les a suivies dans l'organisme, et on a vu qu'elles se concentraient au niveau de la zone inflammatoire douloureuse de manière extrêmement sélective et extrêmement spécifique.
Donc non seulement le médicament n'est pas dégradé, mais il cible spécifiquement
tout
l'endroit qui fait mal. Comment c'est possible ?
Ah, très bonne question. Alors, il cible l'endroit qui fait mal parce que quand vous avez une douleur, généralement, vous avez une réaction inflammatoire, que ce soit dans l'arthrose, que ce soit dans, malheureusement, des pathologies tumorales, une infection, vous avez toujours, souvent dans tous les cas, une réaction inflammatoire. Et quand vous avez une réaction inflammatoire, vous avez arrivée de macrophages, vous avez libération de tout un cocktail de cytokines, et donc la paroi des vaisseaux, qu'on appelle l'endothélium vasculaire, va devenir beaucoup plus perméable que la paroi des vaisseaux au niveau des organes sains. Et donc, c'est un peu comme un tuyau d'arrosage qu'on aurait percé à l'endroit où on veut arroser la plante. Vous allez avoir ce que l'on appelle une extravasation de ces nanoparticules à base de l'œuf en céphaline au niveau précisément de la douleur.
Et les nanomédicaments, on en parle depuis quelques années, c'est déjà une réalité en pharmacologie ?
Oui, ben, il y a quand même entre 10 et 20 spécialités sur le marché, hein, notamment principalement dans le domaine de l'oncologie, du cancer et aussi de l'imagerie. Et donc, pour donner une idée d'un ordre de grandeur pour vos auditeurs, c'est qu'un globule rouge fait 7 microns, une nanoparticule va faire entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres, c'est-à-dire une taille à peu près 70 fois plus petit qu'un globule rouge.
Patrick Couvreur, quand est-ce que vous allez passer à l'humain maintenant ? Parce que, évidemment, le rat est très prometteur, hein, oui. Mais ça nous intéresse, nous, évidemment, en tant que bipède humain.
Oui, bien sûr. Alors, bien entendu, l'idée, c'est d'arriver à faire des premiers essais cliniques. Mais avant cela, malheureusement, vous le savez, le fait de mettre un médicament sur le marché est extrêmement encadré. Mmh. On l'oublie trop souvent. Et donc, avant même de faire la première administration à l'homme, on va devoir faire ce que l'on appelle un lot clinique. Alors imaginez, quand vous allez traiter un rat qui fait 20 grammes, on va synthétiser 100 mg de ces nanoparticules de l'œuf en céphaline, et avec ça, on va pouvoir traiter des dizaines et des dizaines de rats. L'homme, lui, il pèse 70 kg pour un homme moyen, et donc vous voyez qu'il va falloir synthétiser des quantités beaucoup plus importantes, à la fois au niveau de la chimie, puisqu'on a couplé cette leu encéphaline au squalène, et au niveau de la préparation des nanoparticules. C'est ce que l'on appelle la transposition d'échelle. Et ça, nous ne pouvons pas le faire à l'université. Mmh. Ce sont des sociétés spécialisées dans ce que l'on appelle le scaling up. Et ça coûte à peu près 1 million, 1,5 million d'euros. Et ensuite, il faut qu'on fasse une toxicité préclinique réglementaire sur deux espèces animales, un rongeur et un non-rongeur. Et vous voyez que ça aussi, c'est encore plusieurs millions
d'euros. C'est le temps de la recherche, hein, effectivement. Voilà. Héloïse, très vite, une dernière question.
Et rapidement, on sait si ça pourrait prendre en charge des pathologies aussi lourdes que le cancer, par exemple ?
Dans tous les cas, la douleur cancéreuse, encore une fois, ce n'est pas le cancer qu'on va guérir, c'est clairement la douleur en oncologie quand il y a associé un processus inflammatoire.
Merci beaucoup, Patrick Couvreur, pour cette découverte et donc les recherches qui vont en découler, évidemment. Merci, Héloïse, on se retrouve demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'Allemagne prépare une loi pour protéger les insectes. Nos voisins prévoient de réduire l'usage des pesticides et de consacrer des fonds à la recherche sur le sujet. Nous, êtres humains, nous avons besoin des insectes. Ils ont besoin d'être protégés avec une loi spécialement pour eux, a déclaré la ministre allemande de l'Environnement à la presse. Le plan d'action pour protéger les insectes prévoit un financement annuel de 100 millions d'euros, dont 25 millions consacrés à la recherche. Une interdiction d'ici 2023 du glyphosate, dont l'Union européenne a renouvelé en 2017 la licence pour 5 ans, fait aussi partie des annonces allemandes. Des scientifiques chinois ont réussi à contrôler les mouvements d'un rat cyborg à distance et rien que par la pensée. Des électrodes étaient implantées dans le cerveau du rongeur. Ces électrodes étaient reliées par une technologie sans fil à un ordinateur qui lui décodait les ondes cérébrales d'un pilote humain. Et donc ces instructions au rat grâce à un casque à électroencéphalogramme. Les chercheurs ont publié les vidéos de leur travail dans la revue Scientific Report. On peut y voir le rongeur suivre un itinéraire assez compliqué dans un petit labyrinthe. Si d'autres expériences du même type ont déjà été réalisées, c'est la première fois qu'une navigation guidée dans un environnement aussi complexe donne des résultats convaincants. Et puis une équipe internationale d'astronomes propose une carte de la matière noire qui pourrait être la plus précise à ce jour. Leur étude doit encore passer l'étape de la relecture avant d'être publiée, mais leurs premiers résultats semblent indiquer que les structures composées de matière noire évoluent à un rythme plus lent que prévu. Les scientifiques ont utilisé l'un des télescopes les plus puissants au monde et les effets de l'antigravitationnel produit par les masses invisibles de matière noire pour analyser leurs effets sur des millions de galaxies.